Bonjour, ça va bien? Oh, je pense qu'il y a un petit peu de. C'est un petit peu fort. Correct. Et comme Benjamin disait tantôt, on a le privilège, nous, d'avoir les quatre saisons. Des fois, on les met les quatre saisons dans la même semaine. Mais ça nous fait plus apprécier après quand le beau temps arrive. Mais ce matin, quand je me suis levé et j'ai aperçu ce beau soleil, là, j'avais de la misère à m'imaginer qu'est-ce qui serait mieux que ça. Parce que là, mais quand on arrive dans l'éternité, ça va être Dieu qui va être le soleil qui va. Fait que c'est sûr qu'il va être encore mieux que ça. J'ai hâte. Mais je ne veux pas partir tout de suite, mais j'ai hâte. Mais en attendant, on va essayer de vivre pour Dieu, puis regarder sa parole ce matin. Et avant d'aller regarder sa parole, on va se courber. Père éternel, on sait que cette parole-là vient de toi, c'est toi qui l'as inspirée. Tu avais un but aussi quand tu l'as inspirée, et pour la comprendre bien, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit qui puisse nous faire vraiment saisir le sens de ta parole, mais surtout le désir de la mettre en pratique, de se confier en toi et dans ta parole, dans tes promesses. Je veux m'en remettre à toi, Seigneur, que tu puisses vraiment m'effacer de là, que ce soit vraiment ta parole qui compte aux yeux de mes frères et sœurs en Christ. Amen. Probablement que vous avez tous lu les lettres de Paul. Puis, vous avez remarqué, dans ces lettres, il commence toujours par une salutation chaleureuse. Hein? On voit qu'il aime les gens à qui il écrit. Il commence toujours par une salutation chaleureuse. Puis, il apporte tout le temps aussi une action de grâce à Dieu envers ceux qui écrit. Mais ça, juste à l'exception d'une lettre, celle des Galates. Ça, dans la lettre aux Galates, il n'a pas été par quatre chemins, il a été directement. Mais en général, Paul exprime sa reconnaissance envers Dieu pour différentes raisons. Entre autres, parce que Dieu a fait de nous ses héritiers, parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et aussi parce qu'il nous a transportés, c'est-à-dire dans son royaume, dans le royaume de son Fils. Et je crois que nous aussi, on devrait être reconnaissants pour tous ces bienfaits, pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais si vous remarquez, il s'agit d'actions de grâce, de bienfaits que nous avons déjà en Christ. On remercie Dieu parce qu'il nous a déjà donné ça. En particulier dans le domaine spirituel. Mais il n'y a pas grand-chose dans ces actions de grâce-là pour nous aider à vivre notre vie chrétienne. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde un texte ensemble qui, lui, est tiré d'une autre action de grâce de Paul, une action de grâce envers Dieu. Mais cette fois-ci, Paul rend grâce à Dieu parce qu'il a pourvu à tout ce qu'il était nécessaire à ses lecteurs pour leur vie spirituelle en Christ en attendant son retour. Bien entendu, les lecteurs de la lettre, les premiers lecteurs de la lettre, c'était les chrétiens de l'Église de Corinthe. Mais nous aussi, on fait partie de ces lecteurs-là. Donc, j'aimerais vous démontrer par ce texte que Dieu nous a donné à nous aussi tout ce qu'il nous faut en Christ, en attendant qu'il revienne, et en nous basant aussi sur les déclarations que Paul fait aux chrétiens de l'Église de Corinthe, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 4 à 9. On peut tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et on va lire à partir du verset 4. « Paul y écrit, je rends grâce à mon Dieu. Je rends à mon Dieu, c'est-à-dire de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la première déclaration de Paul qu'on peut voir dans ce passage-là concerne l'état, on pourrait dire, l'état comblé des Corinthiens. On a lu au chapitre 4 que Paul remercie Dieu pour la grâce qu'il a faite aux Corinthiens. Et si vous avez déjà lu cette lettre-là que Paul avait adressée aux Corinthiens, vous avez sûrement remarqué que Paul a eu des propos assez durs envers eux autres. Il n'a pas passé par quatre chemins pour leur dire leurs quatre vérités. Mais en même temps, il a trouvé le moyen de remercier Dieu à leur sujet. Parce qu'il savait que tout ce que les Corinthiens possédaient en Christ vient de Dieu. Venait de Dieu. On va mettre ça au passé, parce que ça fait un bout que la lettre a été écrite. Mais on peut le mettre au présent aussi, parce que ça nous concerne. Tout ce qui est nécessaire à notre vie chrétienne vient de Dieu. On peut dire la même chose pour notre Église, pour nous personnellement aussi. Toutes nos ressources spirituelles nous viennent de Dieu. Parce que quand on parle de spirituel, il n'y a rien de spirituel en dehors de Dieu. Donc, tout ce qu'il nous faut vient de Dieu. Il rend grâce à Dieu pour la grâce. Hein? Deux mots pareils, mais qui n'ont pas le même sens. Il rend grâce à Dieu pour la grâce de Dieu. Puis, quand il parle de grâce, il utilise le mot « charis ». Puis la définition que nous sommes habitués d'entendre de ce mot-là, c'est faveur. C'est une faveur que Dieu a faite aux Corinthiens. Et ce qu'on parle de faveur, on parle de quelque chose qu'on ne mérite pas. Et c'est pour cette raison que Paul rend grâce à Dieu parce qu'il sait que les Corinthiens, tout comme nous, on n'a pas mérité toutes ces faveurs qui nous viennent de Dieu. La grâce qui leur a été accordée, si nous regardons la traduction de Louis II que je viens de lire, c'est qu'ils ont été comblés de toutes les richesses. Mais la version Colombe, elle, qui est un peu plus, dans ce verset-là, qui est un peu plus proche de l'original, dit au verset 5, « Vous avez été enrichis en lui de toutes choses. » On a été enrichis de toutes choses. Puis si on regarde quelqu'un qui a été enrichi, on peut penser à une personne qui a augmenté sa richesse matérielle. Hein, depuis qu'il a ce travail-là, il s'est beaucoup enrichi. On peut penser aussi à quelqu'un qui a augmenté son savoir, sa richesse spirituelle. On peut aussi parler d'une terre enrichie. Moi, ce printemps, j'ai l'intention de... Il y en a qui sont au courant. J'ai l'intention de me faire un petit jardin, donc ça va me prendre de la terre enrichie si je veux que les légumes poussent. Ou des aliments enrichis, on parle de santé. On a besoin des aliments enrichis. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui a été ajouté afin qu'on puisse en profiter davantage, que les Corinthiens ne possédaient pas avant. Dieu leur a donné quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Et ce dont ils ne connaissaient pas avant, c'était la grâce de Dieu. C'était même Dieu lui-même. Les Corinthiens n'avaient jamais entendu parler du vrai Dieu. Ils n'avaient jamais entendu parler de la grâce de Dieu. Et là, ils ont été enrichis de cette grâce-là. Et on voit ici que Paul ne parle pas de richesse matérielle ni intellectuelle, mais il parle de richesse spirituelle. Dans 2 Corinthiens 8, 9, Paul leur dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous ou pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, et ça afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » C'est de cette façon-là que le Seigneur nous a enrichis par son humiliation, par son incarnation, puis par sa mort. Mais dans quel domaine, Paul, dit-il que les Corinthiens ont été enrichis? Eh bien, Paul dit qu'ils ont été enrichis de toutes choses. Donc, toute leur vie a été enrichie, mais de toutes choses. Mais il mentionne deux domaines en particulier où les Corinthiens ont été enrichis. Ont eu, on pourrait dire, un surplus. Puis le premier concerne la parole, le logos. Et on sait que les Corinthiens étaient de culture grecque, puis aimaient beaucoup, beaucoup les discours. Ils aimaient quelqu'un qui avait une belle parole, qui pouvait leur ramener un discours sur n'importe quel sujet, là. Et il y avait, dans la Grèce, à Athènes en particulier, beaucoup de philosophes, puis certains entre eux, là, ils étaient d'excellents orateurs. Ils savaient comment manipuler la parole pour faire une bonne impression. Puis beaucoup parmi les chrétiens de Corinthe auraient aimé que Paul ressemble à ces prédicateurs itinérants-là, qui étaient de brillants discoureurs. Il y avait un certain Apollos aussi, qui avait passé par Corinthe, puis on disait de lui qu'il était très éloquent en parole, puis versé dans les Écritures. C'est ce que les Corinthiens admiraient chez Apollos. Puis ils auraient aimé aussi, ils se plaignaient, ils auraient aimé que Paul soit comme ça, puis ils se plaignaient. Du manque d'éloquence, on pourrait dire, de Paul. Parce qu'il faut dire que c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui nous fait un discours ou qui nous fait une prédication qui est éloquent, qui a une parole facile. Mais ça aussi, ça peut être un piège. Ces personnes-là peuvent nous séduire aussi par leur parole. Puis nous empêcher de voir clair. Au chapitre 2, Paul leur dit, il leur fait voir pour lui, ce n'est pas avec une supériorité de langage qu'il est allé chez eux. Que ce n'est pas avec des discours persuasifs de la sagesse afin que leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse du monde, mais qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Paul n'a jamais voulu utiliser ces techniques-là, il n'a jamais voulu utiliser ce genre de langage-là pour séduire. Lui, ce qu'il voulait, c'était simplement leur prêcher l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul leur dit qu'ils ont été enrichis concernant la parole qui a été ni plus ni moins que l'Évangile. Et lorsqu'il est fait mention de la parole dans la Bible, On fait toujours référence à la parole de Dieu. Jean présente Jésus comme étant la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était lui-même Dieu. Dans Actes et les Épîtres, l'accent passe de la parole de Dieu prononcée par Jésus à la parole de Dieu concernant Jésus. Les expressions « parole de Dieu », « parole du Seigneur » ou simplement « la parole » désignent principalement l'Évangile, la bonne nouvelle. Le message de l'œuvre du salut de Dieu par la mort, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça, l'Évangile, la parole de Dieu. Le même message que Dieu avait donné à Adam et Ève lors de la chute, qui a été développé tout au long de l'Ancien Testament, qui s'est réalisé en Jésus-Christ. Dans Actes 15, 7, Pierre dit, « Vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile. » Dans Actes 15, 35, c'est ce que Paul et Barnabas ont fait. Lorsqu'ils demeuraient à Antioche, ils enseignaient, ils annonçaient avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Et c'est de cette richesse-là que les Corinthiens ont été enrichis, qui ont été comblés, on pourrait dire. À cause de Christ, ils avaient tout reçu ce qu'il avait été nécessaire pour leurs propres besoins concernant le salut et leur croissance dans la foi, leur croissance spirituelle, leur connaissance de Dieu. Et aussi, ils avaient tout reçu ce qu'ils avaient besoin pour être capables de le partager aux autres. Et nous pouvons dire que c'est la même chose pour nous aussi. On a tout reçu. Tout comme eux, nous avons été enrichis, nous avons été comblés par la parole, puisque tout ce qui a été nécessaire à notre salut et à notre marche chrétienne nous a été annoncé par ceux qui nous ont annoncé l'Évangile, par ceux qui nous ont enseigné. Et le deuxième domaine dans lequel ils ont été enrichis, c'est la connaissance. En grec, le gnosis. Et la raison dont Paul parle, leur dit ça, qu'ils ont été arrangés par la parole de la connaissance, c'est que certains chrétiens de cette époque étaient particulièrement attirés par ces deux domaines-là. L'éloquence, puis une certaine connaissance que seuls certains initiés, c'est-à-dire prétendaient avoir. Et c'est ce qui a donné naissance à ce que Paul condamnait, c'est-à-dire, il appelait ça le gnosticisme. Et ça, c'était un courant de pensée qui n'avait pas encore connu son plein développement à l'époque de Paul, mais il y avait une tendance qui se développait à cette époque-là. Une tendance que cette philosophie gnostique qui était en train de se développer. Puis le principe de base de cette philosophie, qu'on appelait la gnose, la connaissance, c'est que la matière est opposée à l'esprit qui seul est bon. Donc, ça veut dire que l'esprit est pur, il est bon, mais toute la matière est corrompue. Donc, on doit faire une distinction entre la matière et l'esprit. Le mal, le péché, provient de la matière. C'est pas bon. On met ça de côté. Il faut se libérer de la matière. Ça, c'était leur pensée. Ce que prétendaient les adeptes de cette secte, c'est que par la connaissance, par une certaine connaissance, l'homme peut s'élever au-dessus des exigences terrestres puis trouver sa vraie origine et savoir accès à son véritable moi, qui est d'essence purement spirituelle. Et ça l'entraînait toutes sortes de choses. Il y avait, d'un côté, il y en avait qui disaient qu'il fallait se débarrasser de tout ce qui était terrestre, puis se concentrer sur ce qui était spirituel. D'autres, ils disaient, c'est pas grave. Ce qui est terrestre, la matière, on peut en profiter tant qu'on peut. Parce que c'est l'esprit qui compte. Mais ça, Paul était pris avec cette philosophie-là, pour dire. Puis on peut voir ça aussi, l'influence de cette secte-là dans 1 Corinthiens. Puis on voit aussi que ceux qui cherchaient leur salut dans la connaissance se trouvaient supérieurs aux simples chrétiens qui n'avaient pas cette connaissance. Et la prédication de l'apôtre Paul leur paraissait un peu trop simpliste, là. Premièrement, il ne va pas bien ben loin dans l'esprit, il est trop terre à terre. Et là, c'est la raison pour laquelle Paul leur dit qu'ils ont été enrichis de toute connaissance, qu'ils n'ont pas besoin d'un autre genre de connaissance, ils ont la connaissance suffisante pour leur salut. La connaissance, c'est la connaissance de l'Évangile qu'ils ont besoin, pas plus que ça. Pourtant, Paul, dans la lettre qu'il écrit aux Éphésiens, aux Colossiens, il leur dit qu'il prie pour eux afin que Dieu augmente leur connaissance. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Paul parle de grandir dans la connaissance de Dieu, puis de connaître sa volonté. Puis dans notre passage, les Corinthiens avaient été enrichis de toute connaissance nécessaire au salut, c'est la base. Mais on doit grandir là-dedans après, là. On ne doit pas se limiter à ça. Mais c'est simplement c'est une connaissance de Dieu et non une connaissance ésotérique qui nous fait rentrer dans une autre sphère, là. Dans Matthieu 11, 25, Jésus remercie son Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux enfants. Les enfants, c'est nous, ça, les enfants de Dieu. Et nous, ici, à l'Église de Vauquiem, nous pouvons aussi dire que nous avons été enrichis en ce qui concerne la connaissance de la volonté de Dieu. Et que c'est Dieu qui pourvoit en Jésus-Christ avec richesse à toute la connaissance dont nous avons besoin pour mener une vie qui lui est agréable. Ce n'est pas parce que nous savons tout. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13, 9 que nous connaissons simplement en partie. Mais nous possédons tout ce dont nous avons besoin présentement pour persévérer et pour vivre notre vie chrétienne. C'est la seule connaissance que nous avons besoin d'entendre et d'être fiers. Paul nous dit aussi au verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. En d'autres mots, on pourrait dire le témoignage que nous avons reçu à propos de Christ, la vérité à son sujet, ce qu'il a accompli, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, a été solidement établi parmi vous. Il n'y a rien qui a été caché. La parole nous a été prêchée dans toute sa vérité. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ nous a été annoncée et vous y avez cru. Il a été solidement ancré comme un ancre de bateau. Et on peut dire que c'est dans la mesure où ce témoignage restera solidement établi parmi eux qu'ils vont demeurer enrichis de la parole, de la connaissance de Dieu. Et on peut dire que nous de même, nous devrions sans cesse avoir des cœurs reconnaissants et remercier Dieu pour s'être premièrement fait connaître à nous personnellement, de nous avoir donné cette connaissance de son plan, de nous avoir donné cette possibilité aussi de le comprendre. Parce qu'avant d'être sauvé, je lisais la Bible. Je ne la comprenais pas. Pourquoi? L'Esprit de Dieu n'était pas en moi. Lorsque l'Esprit est venu, le voile s'est enlevé. Ça, c'est une grâce de Dieu, ça. Premièrement, d'avoir la parole dans nos mains, chacun de nous, mais d'être capable de la comprendre, cette parole-là. Dans une autre affirmation, verset 7, Paul dit aux chrétiens de Corinthe qu'il ne vous manque aucun don dans la tente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Paul veut dire par là, pensez-vous? Est-ce qu'il veut dire que les Corinthiens ont tout reçu les dons spirituels énumérés dans 1 Corinthiens 12 et 14, dans Romains 12 puis dans Éphésiens 4? Qu'est-ce qu'il entend par don? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ça doit, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça, mais on avait regardé, il n'y a pas si longtemps que ça, le sens du mot « don » en grec, qui est un peu différent de, en tout cas, de ma compréhension que j'avais avant. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas ici, je vais revenir quelque peu sur la définition. Le mot que Paul utilise ici, c'est charisma. Il est transcrit en français par charisme. Et sa racine, c'est charis. On l'a vu tantôt, c'est-à-dire la grâce. Charisma signifie simplement un don de grâce. Un don que je ne mérite pas. Le dictionnaire biblique donne aussi sa définition, un charisma est un don fait par charisme, c'est-à-dire par grâce. Donc, je fais un don, je te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Mais je le fais par grâce. Dans le grec, qui était utilisé habituellement, on employait le mot charisma pour tout ce que l'on avait reçu gratuitement. Un cadeau. C'est un don gratuit que chacun a reçu, tout comme le salut. Paul utilise ce thème à propos de la vie éternelle dans Romains 6, 23. Le don gratuit, le charisma gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est quelque chose que Dieu a donné à ceux qui ont cru. Qu'ils ne méritaient pas, mais ils ont cru. C'est en quelque sorte quelque chose que Dieu accorde par grâce à ceux qui ne le méritent pas. Donc, le salut, je ne le méritais pas, mais qu'est-ce qu'il m'a donné aussi? Je ne le méritais pas, ces dons-là. Et comme j'ai déjà parlé d'un auteur qui avait écrit un article sur ce sujet, l'auteur de l'article développe son raisonnement et en vient à la conclusion que les dons qui sont mentionnés dans Romains 12 et 1 Corinthiens 12, de 12 à 14, sont plutôt des ministères donnés à des personnes plutôt que des capacités et des aptitudes. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'équipe pas ceux à qui il donne de faire certaines choses. Mais ça, c'est une autre chose qu'on a parlé lorsque j'ai parlé des dons. Mais qu'est-ce qui fait qu'il leur manque aucun don? Eh bien, si je comprends bien le texte, la raison qu'il ne leur manque aucun don serait le fait que le témoignage de Christ ayant solidement été établi parmi vous. Et que le texte dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Certaines versions disent ainsi, il ne vous manque aucun don en attendant la venue du Seigneur. Le fait que le témoignage ou la vérité concernant l'Évangile de Christ et aussi le fait qu'ils ont été enrichis en ce qui concerne la parole, de la connaissance, fait en sorte qu'ils ont tout reçu. Il ne leur manque rien. Qu'il ne leur manque rien collectivement pour accomplir le mandat que le Seigneur leur a confié en attendant son retour. Il n'y a rien d'autre dont ils ont besoin dans l'attente de notre Seigneur. Vous avez tous les ministères, il ne vous en manque aucun. Vous avez toutes les personnes pour accomplir ces ministères. Et c'est comme si Paul leur disait aux Corinthiens, il ne vous manque rien en attendant que le Seigneur Jésus se manifeste. Mais lorsqu'il va se manifester, il y aura encore plus que ça, puisque vous le verrez face à face. Là, on va être dans la plénitude. On n'aura plus besoin de ces dons-là, de ces ministères-là. On va être rendu dans la plénitude avec lui. Et lorsque Dieu me fait un don, c'est que je suis enrichi de quelque chose que je ne possédais pas avant. Dieu nous a donné le salut, la vie éternelle. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné sa parole, les paroles de l'Évangile. Il nous a donné la connaissance aussi. Il nous a aussi donné à chacun une fonction, un ministère, un rôle dans son corps. Et comme je l'ai expliqué, c'est quoi le rôle dans mon corps? Je suis un membre du corps de Christ. Mes membres ont un rôle à faire. Bien, nous avons chacun un rôle. Et comme je l'ai déjà dit, si c'est l'Esprit qui vous a donné ça, bien, demandez à l'Esprit qui vous le montre, votre rôle. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez un membre inactif. Il veut qu'on soit actif pour sa gloire à lui. Pas pour notre gloire à nous. Peut-être que vous n'aimez pas nécessairement le rôle qu'il vous a donné. Vous auriez aimé peut-être un autre rôle. Mes orteils ne sont pas tout le temps contents d'être là. Ils aimeraient mieux avoir une autre place. Mais ils vont avoir une récompense d'orteils. Parce qu'ils ont joué leur rôle. C'est ça. C'est plate à dire, là, mais c'est ça. Donc, les chrétiens de Corinthe ne manquaient d'aucun don, ne manquaient de rien pour accomplir la mission que le Seigneur leur confiait. Et moi, je suis persuadé que nous non plus, il ne nous manque aucun don. Peut-être qu'on n'est pas encore éveillé à ce que le Seigneur nous a confié comme ministère, mais c'est sûr que comme j'ai déjà expliqué, mes mains ne bougent pas tout seules. Si mes mains bougent, c'est parce que mon cerveau il a commandé à mes mains de bouger. Dans le corps de Christ, c'est qui est mon cerveau? Christ. Est-ce que je suis suffisamment en communion avec mon cerveau, pour qu'il me dirige pas à pas, jour après jour. La Bible dit que il ne nous a pas sauvés par nos œuvres, mais qu'il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Donc, il les a préparés d'avance. Avant de me sauver, il avait déjà préparé certaines œuvres. Est-ce que le matin, quand je fais ma rencontre avec Dieu, je lui demande, « Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi ce matin? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi cette semaine, cette année? Prépare-moi à cette rencontre que tu veux m'amener ou à l'œuvre que tu avais planifiée pour moi. » Mais c'est un peu comme si Paul disait aux Corinthiens, Dieu vous a tout donné, ce qui était utile pour votre vie chrétienne en attendant son retour. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ne cherchez pas d'autre chose en dehors de l'Esprit, en dehors de Christ, en dehors de la parole. Il n'y a rien d'autre chose à découvrir d'ici que le Seigneur revienne. Le monde, il n'y a rien d'autre à vous offrir et n'aura rien d'autre à vous offrir pour faire face aux difficultés de la vie, pour vaincre le péché. 1 Pierre 1:3 nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Nous avons tous en lui. Une autre affirmation que j'aimerais souligner et qui se trouve à la fin de notre passage, au verset 8 et 9, qui dit que Dieu est fidèle, que c'est Jésus-Christ qui va affermir les chrétiens et les rendre irréprochables pour le retour de Jésus-Christ. Dieu qui a livré son propre Fils sur la croix afin de nous réconcilier avec lui est fidèle à ses promesses. Il avait fait la promesse à Adam et Ève. Il l'a réalisée. Il y a plein de promesses qui sont marquées dans différents livres de la Bible. Il va les réaliser. C'est lui qui a appelé les chrétiens de Corinthe la communion avec son Fils. Et c'est lui qui va faire en sorte que cet appel se concrétise. Et pour que ça se réalise, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va les affermir, qui va les rendre plus fermes, les rendre plus stables, plus solides dans leur foi, dans leur conviction. Il ne les affirmera pas seulement pour un temps, mais jusqu'à la fin. Et le but du Seigneur dans cette affirmation, dans cet affermissement, c'est de rendre les chrétiens de Corinthe irréprochables pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochables, c'est-à-dire que les Corinthiens seront exempts d'accusations. Personne ne pourra les reprocher quoi que ce soit. Romains 8:1 nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourtant, regardez nos vies, souvent on dit, « Oh, comment qu'il va faire ça? » De me rendre irréprochable. Christ a tout payé à la croix. Tout est accompli. Du premier péché que j'ai fait après ma naissance jusqu'au dernier péché que je vais faire avant ma mort, il était là sur la croix. Il est mort avec mes péchés. Il les a lavés dans son sang. Et là, étant conscient de ça, moi, je veux vivre pour lui, je veux tout faire pour essayer d'éliminer les péchés de ma vie. Mais je ne suis pas capable seul, ça me prend sa force. Mais c'est là qu'il dit qu'il va me rendre irréprochable pour le jour du jugement. Parce que même que j'arrive devant lui au jugement, le Seigneur ne verra pas mes péchés, il va voir Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Et le Seigneur, il va dire, il va montrer ses plaies, il va dire, j'ai payé pour ça. C'est lui qui va me rendre irréprochable. C'est lui qui va me convaincre aussi, par son esprit, de pécher, de mes péchés, d'essayer de me libérer de mes péchés. Pas d'essayer de me libérer, mais de reconnaître mes péchés, de les confesser. Le Seigneur demeure toujours fidèle à ses promesses, qu'il a faites soit dans le livre romain, dans le livre corinthien. Il va être aussi fidèle pour nous aujourd'hui. C'est lui qui va nous affermir, qui nous tiendra jusqu'à la fin. On n'a pas besoin de s'inquiéter, là. Comment est-ce qu'on va faire? Le Seigneur reste toujours fidèle à ses promesses. On peut dire que nous sommes présentement là, des saints, sanctifiés en Jésus-Christ, et Dieu nous voit à travers son Fils. Parce que si on regarde, si on revient dans l'Épître aux Corinthiens, et si on mentalement on regarde tout ce que cette Église-là passait, on peut dire, oh, moi, je ne lui donnerai pas le titre de saint, là. Pourtant, dans 1 Corinthiens 1, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, aux saints, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Ils sont saints, nous sommes saints. Pas parce qu'on n'a pas de péché, parce que Christ les a pris à la croix sur nous, ces péchés-là. Mais le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le jour où il viendra nous prendre avec lui, ce sera aussi le jour où il viendra juger ceux qui n'ont pas cru en lui. Moi, j'espère en tout cas que dans cette salle ici, tous vont être à côté du côté droit. Tous ne seront pas. Il n'y en aura pas du côté gauche avec les boucs. Si vous n'êtes pas certain encore de votre salut, réfléchissez-y. Parce que les conséquences sont lourdes. La vie n'est pas longue. Les plaisirs sont éphémères. L'éternité est longue. L'éternité dans la présence de Dieu, elle va passer dans 5 minutes. Elle va paraître pour 5 minutes. Mais l'éternité dans la présence de l'autre côté, il n'y aura pas de fin. Quand on est en bonne compagnie, le temps passe vite. Hein? On dirait qu'on n'a pas vu le temps passer. Mais de l'autre côté, une minute, là, peut sembler long. Quand on est pressé, qu'on a quelque chose à... Une minute, là, je viens de dire, attends une minute, là. Une minute, ça peut être long. Mais l'éternité dans la présence, en jugement, ça ne sera pas le party, là, comme il y en a qui pensent. Ça va être long. Puis ça finit. Bien, ça va être long, ça finit. Il n'y aura pas de fin. Donc, pensez-y. Pensez-y comme il faut. Demandez à Dieu là, de vous révéler. Parce qu'il y a un qui est capable de vous faire comprendre le salut. Mais ce jour-là, la Bible dit que nous sommes semblables à lui. Parce que nous le verrons face à face. Et c'est là que nous aurons une pleine communion avec lui. On a une pleine communion avec lui là. Mais là, ça va être encore plus merveilleux. Là. On n'aura plus de péché. On va avoir un corps nouveau. On va être semblable à lui parce qu'on n'aura pas de péché. Mais moi, je sais une chose. Présentement, je suis loin d'être rendu. Je suis loin d'avoir atteint le but, comme Paul le dit. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais si je regarde ma vie depuis ma conversion, je constate aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans ma façon de penser, dans mon raisonnement, dans mes actions. Et aussi dans ma foi, je suis plus affermi dans ma foi, mes convictions sont plus solides. Puis j'ai aussi une plus grande confiance en Dieu. C'est ça que ça fait de marcher avec lui. Plus jour après jour, on apprend à le connaître, on apprend à lui faire confiance. Puis le jour du Seigneur est de plus en plus réel pour moi. Il me semble que j'ai encore plus hâte à ce jour-là. Même si je ne veux pas nécessairement, pas suicidaire, là. Je ne veux pas entraîner la communauté dans un suicide collectif. Mais personnellement, j'ai hâte que lui vienne me chercher, pas que j'aille le trouver. Et je suis convaincu aussi d'une autre chose, c'est que pour que ce qui reste à changer dans ma vie, parce qu'il en reste, là, n'allez pas demander à ma femme. mais elle sait probablement, oui, elle sait, je n'ai pas besoin d'autre chose que ce que lui-même a prévu pour moi. C'est-à-dire sa parole, son Église, ses enfants, puis la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça que j'ai besoin. Et il a fait la promesse qu'il va s'occuper de moi. En attendant son retour, tout simplement, qu'il nous amène avec lui, faisons-lui pleinement confiance. C'est ça que Paul disait aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. Et nous, aujourd'hui, on peut se dire la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a pas de nouveau péché. Le moyen d'avoir la victoire, c'est le même que Paul enseignait. Les problèmes que nous faisons face aujourd'hui sont les mêmes que les chrétiens de Corinthe faisaient face. Et le moyen d'y faire face reste le même. Il n'y a pas de nouvelle recette. Dieu ne change pas avec le monde puis les générations. Il reste le même jusqu'à la fin. Il reste fidèle. L'Église de Bokiam a été enrichie en tout point en ce qui concerne la parole, la connaissance, puis le seul moyen d'approfondir cette connaissance, c'est de le connaître, puis de le faire connaître. Et n'oublions pas surtout que le Seigneur lui-même qui nous affermira. Faisons en sorte que le témoignage de Christ continue à être solidement établi parmi nous. En particulier, lorsqu'on se rencontre en chrétien, notre communion fraternelle, qu'elle puisse tourner à l'entour de la grâce de Dieu. Père éternel, moi je veux te remercier pour tes promesses que tu nous donnes encore aujourd'hui. Tes promesses que tu es suffisant pour nos vies. C'est toi qui as pourvu à tous nos besoins. C'est toi qui as pourvu, premièrement, à la grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ. Tu as pourvu à ta parole, à la connaissance. Tu nous as équipés dans ton Église. Tu nous as équipés personnellement pour qu'on puisse vivre notre vie jusqu'à ton retour. Amen.